Bible, s'il vous plaît, avec moi à Apocalypse 6. Avant de commencer de lire, Doug m'a demandé de vous demander de réfléchir à une question pendant que on lit ce passage. La question, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire à la terre dans ce passage? Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept seaux, et j'entendis l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait, « Viens !» Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le monta reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le monta tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait, « Une mesure de blé pour un denier et trois mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le monta se nomma la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre, pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il avait rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, maître, saint vénérable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le sixième seau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de grain. La lune devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? »
Merci. Merci Nick. Maintenant, la question qui a été posée. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Si je disais que j'aimerais avoir deux mots, Dieu éclaire, Dieu donne, Dieu crée. Dans Genèse 1, on dirait Dieu crée. Qu'est-ce qu'on dirait dans l'Apocalypse 6? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Pardon? C'est quoi le mot que j'entends? Juger. Dieu est en train de juger. Nous vivons dans un monde où on ne voudrait pas que Dieu juge. Nous sommes bien prêts à accepter que Dieu est un Dieu d'amour. Mais de toute façon, dans notre société, on n'aime pas ça, le jugement. Au Canada, on vient de vivre la libération conditionnelle de Lattimore dans l'Ouest canadien, lui qui a tué sa fille parce qu'elle avait une maladie difficile. Et depuis trois semaines, j'écoute à la radio, à la télévision, des gens qui disent « Nous ne pouvons pas le juger. » Cet homme qui a tué sa fille malade, en le mettant dans un auto, dans un garage, puis en le faisant mourir par les gaz qui échappaient d'une voiture. Puis j'essaie de comprendre pourquoi on ne peut pas le juger. Est-ce qu'il a tué sa fille? Oui. Non. Mais on vit dans un monde où on ne veut pas que Dieu juge. Le jour arrivera où Dieu va juger. Dans le livre de Romains, au chapitre 1er, nous avons, je crois, un exemple de jugement de Dieu sur la société qui existait dans le temps de Paul et sur les sociétés en général, sur les civilisations qui ont existé depuis que l'homme est sur la terre. Puis on voit dans Romains, chapitre 1er, trois étapes au jugement. Dans Romains, chapitre 1er, on lit que les hommes décident d'adorer la créature plutôt que le créateur. Et que Dieu juge. Puis le jugement qu'il donne, c'est qu'il est livre à l'impureté sexuelle. Puis on regarde le Canada, on regarde la mer du Nord, on regarde l'Europe. Puis, n'est-ce pas qu'on vit dans une civilisation qui est marquée par l'impureté sexuelle, n'est-ce pas? Puis on a beau élire des gouvernements avec des leaders qui sont contre cela, qui voudraient passer des lois comme cela. Mais je suppose que si j'ai le choix, je vais voter pour un premier ministre ou si j'étais américaine pour un président qui aurait des valeurs morales semblables aux miennes. Mais il faut que je comprenne qu'un système politique ne peut pas changer cela. Chers et sœurs, chers amis, nous sommes dans une nation qui subit le jugement de Dieu. Dieu nous a livrés à l'impureté sexuelle. Mais au chapitre 26 de Romains, chapitre 1er, nous avons la deuxième étape. La société est livrée à l'homosexualité. Est-ce que ça nous décrit au Canada? Hein? N'est-ce pas qu'on vit dans une société où l'homosexualité est devenue, en tout cas, moi je me souviens, jeune homme, dans la marine canadienne, qu'un officier avait été découvert, on a découvert qu'il était homosexuel, puis dans quelques minutes, il n'était plus officier. Vous comprenez, là? Et dans notre société, on en parlait en joke entre nous autres, mais l'homosexualité était vraiment mal vue, puis pas acceptable dans la société. Puis que ça a changé, n'est-ce pas? Et Dieu a livré notre société à l'homosexualité. Puis encore une fois, on a bien beau avoir les meilleures politiciennes, avec toutes les meilleurs vœux, puis qu'on peut apprécier. Mais ce que nous subissons en Amérique du Nord, en Europe, c'est le jugement de Dieu sur nous. Dieu juge. Puis troisième jugement dans le Romains chapitre 1er, c'est que Dieu leur a livré à leur sens reprouvé. Incapable de raisonner. Puis on écoute les discours à la télévision. Dernièrement, en Californie, on a décidé que les parents n'avaient pas le droit, un juge a décidé que les parents n'avaient pas le droit d'éduquer leurs enfants à la maison. Pour quel raisonnement? N'est-ce pas? Puis écoute le raisonnement aujourd'hui. Les gens ne raisonnent plus, ils déraisonnent. Puis c'est un jugement de Dieu sur les gens. Mais ça, je pense que nous subissons ça dans notre société aujourd'hui. La parole de Dieu annonce, je crois, que tous ces jugements de Dieu qui ont toujours existé, Dieu a toujours jugé. Mais le moment viendra où Dieu va mettre il va juger la terre de façon finale et complète. Puis le corps de son jugement va éclater. Et je pense que c'est ça que nous avons dans l'Apocalypse chapitre 6. Dieu qui juge, qui manifeste sa colère. Dans Ésaïe chapitre 34, dans les quatre premiers versets, nous lisons ceci. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute. elle et ce qui le remplit, le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, leurs cadavres exhalent de puanteur, et les montagnes se fendent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme une livre, et toute leur armée tombe, comme tombe le feuille de la vigne, comme tombe celui du figuier. Dans le passage que Nick a lu pour nous, nous avons ces quatre cavaliers, ces quatre chevaux, ces quatre cavaliers qui sont, je crois, le début du jugement de Dieu. Puis dans l'Apocalypse, chapitre 7, le verset 2, nous avons le but de ces cavaliers-là. Ils existent, pourquoi? Pour faire mal à la terre et à la mer. Pour faire mal à la terre et à la mer. Oui, Yannick? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Regardons ce premier cheval, ce cheval blanc. Je regardais, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'a monté avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Voilà 2 semaines, j'étais en Californie, où en passant il faisait 75 degrés à l'américaine. Beau soleil, je me suis fait griller, mais pas beaucoup. J'étais à l'extérieur au moins 15 minutes toutes les 3 jours, j'étais là. Mais j'ai eu l'occasion d'aller dans, je crois, la plus grande bibliothèque chrétienne, librairie chrétienne, remplie de bons commentaires. J'ai sauté des sessions où je devais aller suivre des cours, puis je suis allé dans la bibliothèque. Et ils ont 3 murs remplis de bons commentaires. Et il y avait 3 tablettes remplies de commentaires différents sur le livre de l'Apocalypse. J'ai compté 53. Okay? Et j'ai tout lu qu'est-ce qu'ils avaient à dire sur l'Apocalypse 6. Puis après ça, dans cette église-là où on était, il y a une école biblique où il y a une bibliothèque, à peu près la même grandeur de bâtiment que notre bâtiment ici, mais 4 étages, remplie de livres. Et je me suis perdu dedans aussi. Et j'ai pas mal fouillé les livres sur l'Apocalypse dans cette bibliothèque-là, mais j'ai quand même 30-35 commentaires sur l'Apocalypse dans ma bibliothèque personnelle. Alors, je peux vous dire, depuis 3 mois et définitivement depuis 3 semaines, je me suis beaucoup saucé dans ce passage. Je pense qu'on peut dire qu'il y a, en général, 3 grandes écoles d'interprétation. Maintenant, puis je vois que je viens de taper, que j'en ai tapé 4, là, c'est parce que je les ai résumé un peu. Mais 3 écoles d'interprétation, puis là, je les compacte, je les mets ensemble. Il y a d'abord l'école historique, qui dit que tout ce que nous avons vu dans l'Apocalypse 6, qu'est-ce que nous avons lu tantôt, et en général, tout le livre de l'Apocalypse, presque tout, est historique, c'est déjà passé. Qu'on peut identifier des événements dans l'histoire, et particulièrement dans l'histoire de l'Empire romain, où chacun de ces cavaliers avec le chevaux, mais chacun de ces plaies, ces grands événements que nous avons lus, se sont déjà accomplis. Par exemple, le premier cheval avec le cavalier, c'est l'empire des Parthes, des Perses. OK? On va revenir sur cela. Alors, à un moment donné, dans l'histoire, effectivement, dans l'année 62-63, l'Empire romain a subi une grande défaite de la part des Parthes. Et c'est de cela que ça parle, ce premier cheval. Alors ça, c'est un exemple d'une interprétation historique. Tout ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, ça s'est déjà passé. On peut identifier des événements dans l'histoire, puis dire, ça le réfère à tel événement. Le 3e cheval, ou plutôt le 4e trompette, je pense que c'est le 4e trompette, c'est le début et le travail des musulmans qui ont vaincu les chrétiens. Vous comprenez, là? Ça, c'est l'argument historique. Le point de vue, l'école d'interprétation historique. Qui, je dois vous dire, perd beaucoup de plumes depuis des années? Je ne sais pas si j'ose boire cette eau-là. Il me semble qu'il y a 3 mouches. Je te donne 3 indulgences si tu... difficulté avec les cas historiques, c'est qu'on lit, puis j'ai lu des commentaires depuis. J'ai sûrement lu 80 commentaires sur l'Apocalypse depuis 3 semaines. Puis, les historistes, ceux qui ont cette pensée historique-là, ils ne sont pas d'accord entre eux autres. Vous comprenez, là? Pour chacune, telle trompette ou tel saut réfère à un différent événement. Puis, si on a 30 écrivains, ils ont 30 opinions différentes. Et il est difficile de faire accorder ce que nous voyons ici avec des événements de l'histoire. L'autre école, je n'ai pas beaucoup de patience avec l'école de pensée historique. L'autre école de pensée, moi je vais l'appeler l'idéaliste, et je réalise que des personnes le nomment différemment. C'est une école de pensée avec laquelle j'ai un petit peu plus de patience. Cette école de pensée, comment le dire, comment le décrire? J'essaie depuis 3 semaines de voir comment je pourrais l'expliquer en peu de mots. Cette école idéaliste-là nous dit, particulièrement ces sauts, démontre des événements, des influences, des personnages qui, à travers les années, ont toujours eu une influence. Ce sont des choses qui existent et qui ont toujours existé dans l'histoire de l'Église particulièrement. Par exemple, le cheval blanc ici, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez, là? Ça, c'est une interprétation typique d'un idéaliste. Merci. Si je te donne des indulgences, ce n'est pas pour t'encourager de pécher davantage, là. C'est pour tes anciens péchés, là. Merci. Alors, il n'y a pas nécessairement ici des événements futurs, malgré que certains idéalistes disent oui, il y a toujours eu de la famine, il y a toujours eu des guerres, ça parle de tout ça qui est arrivé à travers l'Église, mais peut-être que ça va pire plus tard, vers la fin des temps. Okay? Ça, c'est l'idée idéaliste. Et la troisième école d'interprétation, c'est l'école futuriste. Je ne vous cache pas que c'est l'école dont je suis membre. Cette école-là dit que ce que nous voyons ici, ce sont des choses qui vont arriver au futur. En lisant des commentaires plus récents, il y a une chose qui m'a plu. Il me semble que je vois des idéalistes qui vont dire, oui, ce sont des choses qui ont toujours existé dans l'Église, ces famines sur la terre, ces famines et ces guerres et ces tremblements de terre, il y en a toujours eu. Mais probablement, Dieu va dévoiler sa colère de façon particulière à la fin du temps. Puis je vois des futuristes qui vont admettre que même si on voit dans le chapitre 6 des événements qui sont futurs, ils décrivent tout quand même des choses qui sont arrivées à travers l'histoire de l'Église. Vous le comprenez là? Hein? Puis je pense que ça l'a fait un peu de bon sens. Et vous allez m'excuser si tout en étant assez, ayant certaines appréciations pour ceux qui sont de l'école idéaliste, que je suis une personne qui est futuriste dans ma compréhension de l'Apocalypse. Comment comprendre ce premier saut? On voit que c'est un homme qui sur un cheval blanc, puis a un arc, puis on lui donne une couronne, puis part en vainqueur et pour vaincre. Bien, les historistes de l'école historique vont nous dire que ce sont les Parthes. C'est qui les Parthes? Mais c'est un royaume à l'est de Jérusalem, à l'est de la terre promise où Jésus a vécu, que Rome n'a jamais réussi à vaincre. L'Empire romain a arrêté à la porte des Parthes. Puis c'est bien d'actualité parce que les Parthes occupent ce qui est aujourd'hui l'Irak puis l'Iran. Il n'y a rien qui change. Hein? C'est particulièrement intéressant pour nous parce que dans l'année 62-63, Rome a attaqué les Parthes puis a perdu. Puis quand Rome perd une guerre à cette époque-là, c'était quelque chose. C'est pour cela que les Juifs se sont révoltés contre Rome. Je pense que vous savez que Jérusalem a été détruit en 70, que les Juifs se sont révoltés contre Rome. Puis une des raisons, c'est que les Juifs ont vu que les Parthes ont réussi à résister aux Romains, puis ont dit qu'on est capable de faire pareil nous autres. Alors certains vont dire que cette grande chevalier blanc, avec l'homme là-dessus, avec l'arc, les Parthes étaient connus comme des personnes qui étaient particulièrement efficaces pour partir sur des chevaux avec des arcs. Beaucoup d'images à cette époque-là nous montrent leurs armées qui sont équipées comme cela. Alors, c'est une des raisons qu'on donne que c'est les Parthes. Je pense que l'interprétation est un peu difficile. Une des difficultés que j'ai avec l'histoire historique, l'école de pensée historique, c'est que qu'est-ce que ça nous fait, ça? Qu'est-ce que ça change dans notre vie à nous? Deuxième interprétation qu'on trouve souvent, c'est des personnes qui sont d'école idéaliste, c'est que cet chef cavalier blanc-là, c'est l'Évangile qui est répandu dans le monde. C'est l'Évangile, cela-là. Le troisième, que c'est le Christ lui-même. Et il y a quand même des bonnes raisons pour penser que ce soit possible. Tournez avec moi dans l'Apocalypse chapitre 19, s'il vous plaît, et le verset 11. Apocalypse chapitre 19 et le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici paru un cheval blanc. Celui qui l'a monté s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, plusieurs diadèmes, il y avait un nom écrit. Son nom est la parole de Dieu. Mais est-ce qu'il y a des doutes sur l'identité de ce cavalier, ce cheval blanc, dans l'Apocalypse 19? C'est qui ça? C'est Jésus, n'est-ce pas? C'est certain, on ne peut pas se tromper ici. Alors, l'idée, c'est ceci, mais dans le même livre, nous avons deux chevaux blancs, deux cavaliers qui partent pour vaincre, ça doit être la même personne. C'est quand même un argument qui est intéressant. La quatrième possibilité que nous avons, que ce soit l'Antichrist, ou bien des Antichrists. Il y en a toujours des personnes qui se sont présentées en contrefaçon comme le Christ, avec l'Antichrist lui-même comme comble de cela. Puis, dernière interprétation possible, c'est que ce soit la fausse paix. La fausse paix. Comment l'interpréter? Comment décider dans cela? J'aimerais vous suggérer quelques principes qui m'ont guidé quand j'ai interprété ce passage. D'abord, les quatre premiers sauts vont ensemble. Ils vont vraiment ensemble, ces quatre sauts-là. Ce sont quatre chevaux, quatre chevaliers. Je pense qu'il y a ici un ensemble, puis il faut les interpréter ensemble. Deuxièmement, il est plus important de considérer le contexte que de toujours donner le même sens au symbole. C'est une interprétation, c'est un principe d'interprétation qui est extrêmement important pour moi. Par exemple, dans l'Ancien Testament, la levure est parfois un symbole du péché. Et pour cette raison, dans Matthieu 13, beaucoup de personnes vont dire, mais la levure qui est cachée dans le pain par la femme doit certainement être le péché. Non. La levure est un symbole de quelque chose qui grandit, n'est-ce pas? Et de dire que c'est toujours le péché, mais je pense que ça nous force vers une interprétation de Matthieu 13 qui n'est pas saine. Alors, si le cavalier blanc, sur le cheval blanc, dans l'Apocalypse 19 et Jésus, est-ce que ça veut dire nécessairement que cela est aussi dans l'Apocalypse 6? Pas certain. Il faut comparer avec des passages parallèles. Dans Matthieu 24, dans Daniel, dans Zacharie, nous avons quand même des passages qui sont assez semblables. Et je pense qu'il faut les comparer. Puis, il semble que les sons nous parlent du jugement de Dieu. Il me semble que c'est ça. C'est pour ça que j'ai peut-être fait poser la question au début. Cet chapitre nous parle du jugement de Dieu. Et j'ai tendance à croire que ces quatre cavaliers nous parlent de différentes formes de jugement de Dieu. Encore une fois, sans être dogmatique, c'est ma façon de comprendre. Je reviens sur cette question que les quatre sauts vont ensemble. Chaque fois, un être vivant dit « vienne ». C'est la même image, cheval et cavalier. C'est le même thème, jugement de Dieu, conquête, guerre, famine, mort. J'aimerais que vous regardiez avec moi le parallèle entre Matthieu 24 et l'Apocalypse chapitre 6. Puis je ne sais pas si vous pouvez le voir et le lire ou non, mais si on regarde Matthieu 24, où Jésus est en train de répondre à ses disciples sur des questions qui concernent la fin des temps. Jésus a dit à ses disciples, « Ce temple va être détruit. Il ne restera pas pierre sur pierre. » Puis ses disciples posent des questions, mais ça va arriver quand? Puis quand est-ce que... Tu sais, toutes sortes de questions. C'est quand la fin des temps, Jésus? Puis Jésus, en Matthieu chapitre 5, 6, 7, et la suite. Je pense qu'il y a un parallèle entre Matthieu 24 puis l'Apocalypse chapitre 6. Puis ce ne serait pas surprenant. Ce que le Saint-Esprit nous révèle dans l'Apocalypse chapitre 6 doit être un peu conséquent avec ce qu'il a révélé par le dans Matthieu 24 et l'Apocalypse 6 doivent concorder un peu. Dans Matthieu 24, le premier signe du retour du Christ, c'est quoi? Car plusieurs viendront dans sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Dans Matthieu 24, Jésus dit, le premier signe que c'est la fin du temps, c'est ça. Des fausses Christ, antichrist. Dans l'Apocalypse, ça concorde avec ce cheval blanc. Celui qui montait avait un arc, une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Dans l'Apocalypse, chapitre 24 et verset 6, on lit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et dans le deuxième saut, c'est quoi? Il sort un cheval roux et il reçoit le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns des autres et une grande épée lui fut donnée. Le deuxième signe par Jésus, c'est les guerres. Et le deuxième saut, c'est les guerres. Et le troisième signe de Jésus dans Matthieu 24, verset 7, il y aura des famines, n'est-ce pas? Puis le troisième cheval, c'est quoi? C'est la famine, mesure de blé pour un denier. On va revenir à ce passage-là tantôt. Puis le quatrième signe que Jésus donne, c'est les pestes, les pestilences. Et le verset 8 nous dit, le pouvoir lui fut donné sur le corps de la terre pour faire tuer les hommes par l'épée, par la famine, pour la mortalité et par les bêtes sauvages. Alors on voit cette parallèle entre Matthieu 24 et l'Apocalypse 6 qui me porte à croire que cet homme, vainqueur, habillé en blanc sur le cheval blanc, n'est pas le Christ, mais c'est plutôt le faux Christ, c'est l'Antichrist. Dans Matthieu 24, 4 à 5, nous lisons ceci. « Prenez garde que personne ne vous séduise, par plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça arrive maintenant, mais vers dans la fin des temps, ça va arriver de façon plus dramatique. Daniel 7, 25, parlons de cet antichrist. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera des saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Paul en parle dans 2 Thessaloniciens. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Alors encore une fois, je pense qu'on peut comprendre des personnes qui diraient, puis il y a quand même des personnes compétentes qui peuvent croire que le premier cheval ici, c'est Jésus-Christ lui-même. J'ai tendance pour plusieurs raisons de croire que c'est l'Antichrist. Pourquoi? Parce que ce passage nous parle des jugements. Et je crois que l'arrivée de l'Antichrist, c'est un jugement. Deuxième des choses, c'est que dans l'image que nous avons ici au verset 6, nous avons l'agneau qui ouvre les seaux. Il est là, il ouvre les seaux. Puis après ça, l'une des bêtes qui représente sûrement les chérubins. Ces êtres angéliques qui sont un peu responsables de la création de Dieu. Ces chérubins-là qui crient, viennent. Puis l'agneau qui est en train d'ouvrir les seaux, mais ils viennent sur un cheval. Il me semble que l'image ne va pas bien. Un troisième argument que je vous aimerais vous suggérer, c'est ceci. C'est qu'au verset 4, nous avons le deuxième cheval qu'on va regarder, le deuxième cavalier que nous allons regarder. Puis, on voit qu'il a le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Enlever la paix de la terre. Regardez l'histoire de l'humanité depuis 2000 ans. Puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu de la paix sur la terre? Pas bien, bien. Hein? Puis, il me semble qu'il y a un lien entre ce deuxième et ce premier cavalier. Ma compréhension de Daniel, de Matthieu, de Thessalonicien et des autres versets, c'est que l'Antichrist va venir avec des belles promesses. Puis il va nous donner la paix temporaire. Mais ça va être une fausse paix qui ne durera pas longtemps. Mais quand cette paix-là va être rompue, ce ne sera pas un cadeau. Alors, le premier cheval, c'est cette fausse paix. Hein? Voilà. Deuxième cavalier, cheval rouge. Enlever la paix de la terre, s'égorger les unes les autres. Je pense qu'on n'a pas beaucoup de discussion ici. On parle de guerre. Jérémie 25, 29. Vous ne resterez pas impunis car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre. Il semblerait que ce chevalier nous parle d'un moment dans l'histoire du monde, à l'avenir. Il y a toujours eu des guerres. Mais là, on parle d'une époque de guerre terrible, universelle. Matthieu 24, 6 et 7 a dit, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. » 1 Thessaloniciens 5, 3. « Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Le message de 1 Thessaloniciens, c'est ceci. C'est qu'il y aura un moment où les gens vont dire, « Enfin, paix et sûreté. » À ce moment-là, watch out. Bon. Troisième cheval. Je pense que vous comprenez que pour la première fois dans mon souvenir, ça fait juste 40 ans que j'assiste à l'Assemblée ici. Hein? La première fois depuis que je me souviens, on a fermé l'Assemblée dimanche matin. Je pense qu'on a bien fait. C'était dangereux. Mais on est pris pour faire deux semaines dans une. Alors attachez vos trucs. On va faire ça aussi rapidement que possible. Troisième cavalier, troisième cheval ici, c'est le cheval noir. Et il y a une imagerie ici qui n'est peut-être pas évidente pour nous au début. On nous dit qu'il tient une balance dans ses mains. Nous, quand on va dans le magasin, d'habitude, on achète des sacs de quelque chose qui sont déjà pesés, n'est-ce pas? À cette époque-là, c'est comme quand j'étais petit gars. On allait au magasin, puis il y avait une balance, et on commander une livre ou cinq livres de patates ou 20 livres de patates, puis on pesait ça devant nous autres, n'est-ce pas? Puis les balances, dans cette époque-là, mais vous savez comment ça a été fait, hein, avec une barre sur un point, bon, puis bon, on pesait. Alors ici, on dit qu'une mesure de blé pour un denier. C'est quoi une mesure de blé? C'est combien une mesure de blé? Pardon? Combien de mesures de blé? Si on dit une litre, on ne se trompe pas beaucoup. Vraiment une litre. Pour des petits vieux comme moi, une pinte. Ouais. Une mesure de blé. Une mesure de blé, c'était la quantité minimum qu'un homme qui travaillait avait besoin pour vivre. Avec une mesure de blé, on fait une pinte. Pas un pain double, là. Grosse pain de sandwich, là. Mais un pain bien ordinaire. Avec une mesure de blé, on faisait un pain. Puis dans cette époque-là, on disait que, par exemple, un esclave. On savait que si on avait 10 000 esclaves qui travaillaient sur un édifice public, qu'il fallait pourvoir une mesure de blé pour par esclave. C'était un peu les calculs économiques de l'époque. Donc, une mesure de blé, ça représente le minimum qu'un homme a besoin pour vivre. L'orge, c'est quoi l'orge? Bien, c'est une céréale dont la valeur nutritive est moindre que le blé. En effet, il faut manger 3 mesures d'orge pour retirer la même nutrition qu'une mesure de blé. Vous me suivez? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Ah, oh, un denier. C'est quoi un denier? C'est le salaire d'un ouvrier pour un jour. Un gars qui travaille dans le champ, un gars qui travaille dans la construction. La majorité des ouvriers dans l'Empire romain, par tradition, leur salaire, c'était un denier par jour. Qu'est-ce qu'on dit ici dans cette image? On dit qu'un homme qui travaille fort, un ouvrier, peut, avec sa salaire d'une journée, acheter assez d'orge ou assez de blé pour se nourrir lui-même, puis une diète un peu plate, n'est-ce pas? Quand j'étais en Afrique, j'ai mangé une banane puis une tranche d'ananas par jour. Puis c'était fun pour 2 jours. Je suis ennuyé des Big Mac. L'image ici, c'est une image de famine, de pénurie, de misère, de misère. On dit fais point mal à l'huile et vin. C'est difficile à comprendre. Peut-être que ça veut dire que tu peux bien avoir une mesure de blé, une pinte de blé ou 3 pintes d'orge, 1 litre de blé ou 3 litres d'orge, mais tu n'auras pas d'huile et tu n'auras pas de vin. Puis à cette époque-là, on prenait de l'huile d'olive pour cuire, n'est-ce pas? Puis on prenait le vin pour boire, pour rendre l'eau sécuritaire, puis ainsi de suite. On mettait 4 parties d'eau, puis 1 partie de vin, ou 3 à 1, quelque chose comme cela. Alors peut-être que cela veut dire que vous allez avoir peut-être une mesure de blé, mais tu n'auras pas d'huile d'olive pour le faire cuire, puis tu n'auras pas de vin non plus pour boire. Peut-être que ça veut dire cela. D'autres peuvent croire que ça veut dire que les plus pauvres peuvent s'acheter du blé ou d'un peu d'orge, mais ils ne pourraient pas s'acheter l'huile et le vin. C'est réservé aux plus riches. Et c'est possible que ce soit cela, je ne sais pas. Mais on voit ici l'image de ce troisième cavalier, ce troisième cheval qui nous parle de famine. En passant, les famines suivent toujours la guerre, n'est-ce pas? J'ai mon oncle qui était soldat dans la Deuxième Guerre mondiale en Hollande. Ceux qui ont connu Samuel Capiter, ceux qui sont plus vieux qu'ici, ils se souviennent que jeune homme, comment qu'ils avaient faim en Belgique, et comment après la guerre, il avait encore plus faim. Et vous savez qu'il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont mortes de faim en France, en Belgique, en Hollande, puis en Allemagne après la Deuxième Guerre mondiale. La famine suit la guerre. Et on voit ici une famine terrible qui fait mourir beaucoup de personnes. Jugement de la part de Dieu. Quand j'étais en Afrique, il y a un homme très intelligent. Il dit, j'aimerais ça que tu me parles de vos épiceries. C'est quoi une épicerie? Faut que tu comprennes que tout ce qu'ils ont, ils ont dans leur jardin. Puis des fois, les pygmies peuvent aller chercher des antilopes. Puis ils vont manger une petite antilope. Ils se mettent 22 familles pour manger l'antilope. C'est grand comme une poule ou une dinde peut-être, une petite dinde. Puis décrire une épicerie. Quand je suis revenu ici au Québec après presque un mois de parti, là, on était au Super-C. Puis j'étais à c'est Loblaws, à Trois-Rivières-Ouest. Que c'est-tu beau, ça? Moi, j'ai trouvé ça beau. Je suis allé tous les soirs pendant une semaine, juste pour regarder la variété. Avez-vous pensé à ce qu'on mangerait à Trois-Rivières si le transport était fermé entre ici, puis le Floride, puis la Californie? Hein? Qu'est-ce qu'on mangerait? Cette semaine, à la radio, je suis allé à Montréal, puis j'ai écouté la radio, un programme sur les environnementalistes. Celui-là, il veut absolument qu'on ne mange rien qui ne vienne pas, qui vienne plus loin que 100 km. Ils disent qu'une des choses qu'on doit faire pour l'environnement, c'est de dire nous allons manger ce qui vient seulement de 100 km de notre alentour. Parce que ça coûte tellement cher de faire venir des pêches en hiver de la Chili, puis des tomates de la Floride, puis des bananes, je ne sais pas où. Vous comprenez, là? Puis, c'est un gars de Colombie-Britannique qui présentait cela. Puis, il y avait un Québécois sur le panel qui parlait. Il dit, ça peut bien marcher en Colombie-Britannique, mais il dit, au Québec, ça ne marchera pas. On crevera de faim l'hiver. Il ne savait pas c'est quoi. Est-ce qu'ils sont fortus manger le neige? On n'en manquera pas, là, mais il n'y a pas beaucoup. C'est pire que l'orge, ça, là. Vous comprenez? Imagine qu'est-ce que ça pourrait faire, la guerre, qui ruinerait tous les systèmes de transport. Les Mormons ont une politique que chaque famille doit avoir, je pense, c'est 5 mois de vivre chez eux. Et intéressant qu'ils doivent acheter certaines vivres qui sont vendues par les chefs de leur secte. C'est bien payant pour eux autres. Ils ont peut-être une bonne idée, je ne sais pas. Matthieu 24, verset 7, il y aura des famines. Il y aura des famines. Inflation. Il n'y a rien qui pousse l'inflation comme que la rareté. Hein? Quatrième cheval. Le cheval que ma Bible appelle verdâtre. Le mot, dans l'original, nous a donné en français le mot chlore. Souvenez-vous de vos petits cours de chimie? Vous savez c'est quoi la chlore? C'est quelle couleur la chlore? C'est vert jaune, n'est-ce pas? Vert jaune. Bien dangereux, bien dangereux. Un cadavre qui est laissé trop longtemps tourne vert. J'en ai vu de ça. Alors, l'image ici, c'est une image de mort. Une image de mort. Le passage nous dit périr par l'épée, la famine, la mortalité, les bêtes sauvages. Un quart de la terre qui meurt. Mon cher ami, il y a déjà eu des pestilences, déjà eu des guerres, il y a toujours eu des choses difficiles. Mais on voit ici que c'est plus poussé un peu. C'est une raison que je suis futuriste quand je lis ce passage. Il me semble que ici, nous avons dans une courte période de temps de terribles concours de circonstances, famine, guerre, pestilence, bêtes sauvages, et tout cela fait mourir le quart de la population de la Terre. C'est quoi la population de la Terre? Es-tu rendu à 6 milliards, c'est à peu près ça? 7 presque, oui. Ça fait 1 milliard et demi, c'est la population de la Chine ou plus. 1 milliard et trois quarts, si c'est 7. C'est du monde, cela. Puis on n'a pas vécu ça sur la Terre, cela. Ça, c'est à l'avenir. On a vécu des choses terribles, mais ici, nous avons quelque chose qui est plus poussé à l'avenir. Matthieu 24, 7. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Le cinquième saut en change un peu de scène. Puis, on voit les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, à cause du témoignage qu'ils avaient rendu, puis ils crient d'une voix forte, puis en disant, « Jusqu'à quand, Maître Saint et véritable, tarderas-tu à juger et tirer vengeance? » Puis on leur donne une robe blanche, puis on leur dit de se tenir encore tranquille un peu de temps. Je crois que nous sommes d'ici devant une image, on voit ça souvent dans l'Apocalypse, c'est qu'après des visions qui nous montrent ce qui se passe sur la terre. On ouvre le rideau pour voir ce qui se passe au ciel. Et nous avons ces martyrs. Si je comprends bien, la résurrection corporelle n'est pas encore arrivée. Ce sont des âmes. Ils existent spirituellement, mais ils sont séparés de leur corps. Et l'homme sans corps n'est pas complète. Ils attendent la résurrection. Puis l'autel, il y avait dans l'Ancien Testament, dans le temple, et dans le tabernacle, et beaucoup d'images de l'Apocalypse sont tirées de l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans comprendre l'Ancien Testament. Il y avait deux autels. Il y avait l'autel d'offrandes brûlées. Puis il ne fallait pas être sous cet autel-là, parce que sous cet autel-là, il y avait beaucoup de feu, n'est-ce pas? Il y avait un grand feu, puis ça chauffait. Alors je pense que l'image ici est plutôt de l'autre autel, qui était l'autel des parfums, qui parle des prières des saints. Puis il y en a au ciel, ceux qui sont morts pour le Seigneur, les martyrs. Il y en a toujours eu. Je crois que dans la fin de temps, il y en aura plus. Puis eux, ils sont là, puis ils prient. Ils prient. Daniel 11, 35 nous dit, quelques-unes des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis jusqu'à la fin de le temps, car il n'y aura qu'au temps marqué. Jusqu'à quand, sur leur cri. Et je pense que des fois, on regarde ce qui se passe sur la terre, puis on dit « jusqu'à quand? » Puis Dieu leur dit « relax, je sais ce que je suis en train de faire. Hein? » Rapidement, le sixième saut. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune entière devient comme du sang. Alors, on voit même qu'au verset 13, les étoiles du ciel tombent sur la terre. En passant, le mot « étoile » ici dans l'original est un mot qui parle simplement d'un objet céleste. Ça peut décrire un météorite, ça peut décrire une comète, un astéroïde, ou ça peut décrire une étoile. Le passage ne dit pas que les grandes étoiles qui sont des millions de fois plus grandes que la Terre vont tomber sur la Terre. Non, mais il y a toujours eu des météorites qui ont tombé sur la Terre, n'est-ce pas? Puis une couple d'astéroïdes aussi, n'est-ce pas? Mais on semble à cette époque-là qu'il y aura plusieurs. Et vous savez que les nations de ce temps-là investissent beaucoup pour faire le recensement des objets célestes, qui fois en 10 000, 5 000, 1 000, certaines 20 000, ces astéroïdes qui font le tour du système solaire pour essayer de voir s'ils vont tomber sur la Terre. Puis si ça va arriver, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'empêcher, n'est-ce pas? Puis les Américains qui viennent de détruire un satellite, là, hein, ça fait partie de toute cette grande recherche-là. Qu'est-ce qu'on va faire si on dit, on vient de découvrir un astéroïde qui vient droit sur nous autres, c'est 6 000 par 4 000 de grandeur, ça là, puis ça va tomber sur la Terre dans 6 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On a beaucoup d'idées, là, mais on n'a pas vraiment de solution de fait encore. Puis il y a des fameux films de Hollywood sur ça, là, vous les avez peut-être vus. Au verset 13, quand ça parle d'une figuier secouée par un vent violent, les figues vertes, si on connaît le cycle de croissance des figues, en hiver, les figuiers perdent leurs feuilles. Les figues commencent à grandir, ils sont vertes. Ils n'ont pas de feuilles pour leur protéger des vents. Alors, lorsque les vents arrivent, les figues vertes, ou vert, les figues vertes, tombent à terre très facilement, parce qu'ils ne sont pas encore développés, parce qu'ils ne sont pas protégés par les feuilles qui ne sont pas là. On voit la terre qui est un peu secouée comme le vent secoue un arbre, puis les feuilles, puis les fruits tombent. Bon, il y a toujours des astéroïdes. Il y a toujours des tremblements de terre. Ici, le soleil devient noir, puis la lune devient comme du sang. Puis je pense que notre compréhension du langage nous permet de dire que non, Dieu n'a pas pris 2 millions de gallons de peinture pour peindre la lune rouge. Ce qui arrive dans l'atmosphère change la couleur de la lune rouge. Moi, j'ai déjà vu une lune rouge pendant un grand feu de forêt. Alors, on parle ici de la perception des hommes de la lune puis du soleil. Puis moi, j'ai déjà vu le soleil presque noir à cause de Nouvelle-Écosse. À un moment donné, il y a eu un très grand feu de forêt. Puis le ciel était noir 24 heures par jour pendant près 4-5 jours à cause de ce tremblement de terre-là, à cause de ce feu de forêt-là. Alors, on parle ici de perception et non pas nécessairement de réalité physique quand on lit cela. Il semblerait que lors de cette sixième tour qui va arriver, que Dieu va toucher la création. Il y a toutes sortes de choses terribles qui vont arriver. Les étoiles, les objets célestes qui tombent sur la terre. On sait qu'est-ce qui arriverait si un astéroïde de 6 000 par 4 000 tombait sur la terre, n'est-ce pas? Vous les avez vus le film? Ben, vous savez qu'est-ce qui arriverait? Un énorme tremblement de terre, comme ici. Il y en a toujours eu des petits tremblements de terre. Ici, ça semble être un grand tremblement de terre. J'aimerais terminer avec en regardant les versets 15 et 16, la réaction des gens. Moi, j'ai écrit ceci dans mes notes. Le grand égalisateur. Les rois de la terre, les grands chefs militaires riches, les puissants, puis les esclaves, puis les hommes libres, ils se cachent dans des cavernes. Ils sont tous égaux à cette heure. Hein? Leur palais et leur grande maison ne les protègent plus. Puis ils disent aux montagnes et rochers, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Est-ce que vous réalisez qu'ils savent qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quoi la réaction? De se repentir, puis crier à Dieu, puis demander le pardon pour le péché, se convertir, c'est ça leur réaction? Car le grand jour de sa colère est venu, qui peut subsister? Tombez sur nous des rochers puis les montagnes. Ils aiment mieux être écrasés par les rochers puis les montagnes que de tourner vers Dieu puis se repentir. La dureté du cœur. Pense à Pharaon. 10 plaies qui se sont succédées l'une après l'autre. Puis malgré le fait que Dieu lui parlait par des choses terribles qui arrivaient à lui et sa nation, il endurcit, puis endurcit, puis endurcit son cœur. Puis Dieu finit par l'aider à endurcir son cœur aussi. Puis il ne peut plus répondre au jugement de Dieu. Vous savez que lorsqu'on résiste la voix de Dieu, puis on rejette l'appel de Dieu, on devient tellement dur qu'on ne peut plus répondre. Et c'est ça qui arrive dans l'histoire que nous avons ici. C'est ça qui arrive. Qui peut subsister? J'ai bien averti les anciennes que j'allais peut-être prendre 5 minutes de plus. J'ai des applications. Pourquoi la prophétie? Pourquoi qu'on fait cela? Bien, la prophétie révèle les plans et buts de Dieu. Une chose certaine, c'est qu'on peut ne pas être d'accord sur certains petits détails dans ce passage-là. Je n'ai pas toutes les connaissances. Mais Dieu va juger un jour. Cela protège le croyant des contrefaçons du diable. Chers amis, ayant les yeux ouverts. C'est bien beau les Nations Unies, c'est bien beau tout le monde travaille pour la paix. Puis j'aime mieux la paix que la guerre. Mon père m'a toujours dit, parce que mon père a fait la guerre. Puis mon père me dit, ceux qui trouvent la guerre glorieuse, c'est parce qu'ils n'ont jamais fait la guerre. C'est ce qu'il disait mon père. T'sais. Il était très affecté par ces 6 ans de guerre, 39-47. Alors, je ne suis pas contre ça qu'on empêche la guerre. Mes chers amis, achetons pas les solutions de ce monde. Quand est-ce qu'on va avoir la paix? Quand est-ce qu'on va avoir la paix? C'est quand le prince de la paix va venir, puis il va établir la paix. Puis il va régner avec une verge de fer. Puis en attendant, tout est bien temporaire. Cela nous encourage à vivre dans la sainteté. 1 Jean nous dit que celui qui a cette espérance en lui se purifie. Mes chers amis, quand on regarde que Dieu est un Dieu d'amour, mais oui, mais c'est aussi un Dieu qui doit juger à cause de qui il est. Vous ne pouvez pas avoir le Dieu de la Bible sans accepter que c'est un Dieu qui juge. Et des fois, nous, dans notre vie chrétienne, on tolère des choses. Puis, on abuse un peu de la bonté de Dieu. Puis, on pense qu'on peut vivre en hypocrite, puis dans le péché caché, ou peut-être ouvert. Puis on pense que Dieu ne jugera pas. Mon chers amis, on est dans un âge de grâce. Et Dieu agit envers cette terre et envers cette église et envers ce monde dans la grâce. Mais le jour viendra où est-ce qu'il va juger. Hein? Puis le jugement commence où? Par la maison de Dieu, par nous. J'espère que ça nous aide à aimer plus le Seigneur, d'apprécier sa beauté. J'aimerais vous parler très brièvement de le danger de la prophétie. Attention le sensationnalisme. J'haïs tellement ça là que je ne suis même pas capable de le dire. J'ai encore reçu un email. Benoît m'a envoyé ça, n'est-ce pas? C'était Benoît, là. Un bonhomme ici au Québec qui pense que le Seigneur, il faut qu'il revienne dans l'année 2012. Okay? Ils ne sont pas tannés, eux autres, là, de ces niaiseries-là. Tu te souviens-tu de la bug de 2000, là? Il y a des chrétiens qui sont embarqués dans ça, là, sont honteux. Moi, je me souviens quand les Américains ont mis un homme sur la lune, des grands prédicateurs qui ont dit, « Dieu ne permettra pas à l'homme de marcher sur la lune. Jésus va revenir avant, vous allez le voir. » Je ne sais pas comment ils ont eu le courage de monter dans une tribune la semaine après. Ils avaient eu tellement tort. Attention à cette sensationnalisme-là. Écoute, on regarde qu'est-ce qui se passe, on regarde l'Apocalypse, on trouve ça intéressant, on ne tire pas des conclusions. Mettons pas des dates. Jésus a dit, personne ne connaît l'heure de mon retour. Même il est allé très loin, il dit, même moi, je ne sais pas. C'est un des passages les plus difficiles dans la Bible. Comment se fait que Dieu, deuxième personne de la Trinité, ne savait pas l'heure de son retour? Dans son humiliation, dans son incarnation, ignorance délibérée. N'allons pas à l'autre extrême puis dire on ne peut pas comprendre, on ne peut pas savoir, je ne suis pas intéressé, mais non. C'est là pour nous autres, cela. Là. Hein, on doit être informé. L'orgueil. Je connais des personnes qui sont tellement experts en prophétie qui se sont remplies d'orgueil. J'aimerais ça vous dire ceci. J'ai des convictions profondes sur ces passages-là. Je les ai quand même étudiés. Mais je me souviens que quand notre Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, c'est à peu près tout le monde qui s'est trompé. Même ses propres disciples qui ont passé 3 années et demie n'ont pas compris ses plans et ses buts. Tu comprends, là? Mais peut-être quand le Seigneur va revenir, on va tout être surpris un petit peu de comment ça va se passer. Je pense qu'on peut étudier ces passages-là, on peut les comprendre, puis on peut même avoir des convictions. J'en ai des convictions, je sais qu'est-ce que je pense, mais on peut le faire avec une certaine humilité. Puis surtout, de mépriser quelqu'un qui peut penser que le cavalier sur le cheval blanc est peut-être l'Évangile, ou peut-être que c'est Jésus, ou c'est peut-être l'Antichrist. Moi, je pense que c'est la fausse paix, parce que ce ne sont pas des personnages des autres cavaliers, ce sont plutôt des influences ou des événements. Mais avoir une certaine humilité pour dire que peut-être que l'autre a ses raisons de croire cela. Je n'ai pas besoin d'écraser les autres et les mépriser. Manque d'équilibre. Attention au manque d'équilibre. Il y a des églises qui passent tout le temps à étudier la prophétie. Nous autres, on ne le fait pas souvent, c'est la première fois depuis bien des années. Hein? Attention, il y a d'autres choses que ça dans la Bible. Puis le découragement. C'est un passage difficile et que je me suis découragé. Hein? J'ai-tu lu ça? Moi, j'ai beaucoup de questions sur ces passages-là. Je n'ai pas toutes les réponses. Décourageons-nous pas. Comprenons ce que nous pouvons comprendre. Appliquons ce que nous pouvons comprendre dans notre vie, dans l'humilité. Puis décourageons-nous pas. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? On le comprendra tout un jour, hein? Ça va peut-être prendre l'éternité. Prions. Merci Seigneur pour ta parole, pour ta révélation de toi. Et Seigneur, nous sommes tous d'accord sur une chose, c'est qu'un jour Jésus va revenir nous chercher. Puis il va établir un règne éternel de justice et de paix. Puis nous crions, Seigneur, viens. Nous avons hâte de ton retour. Seigneur, devant ces jugements qui sont décrits ici, ça nous fait peur. Ça nous fait peur pour nous qui avons des enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce qu'ils vont subir? Ça fait peur pour nos amis au travail, Seigneur. Puis ça nous rend encore plus évidente l'importance de témoigner, de parler aux gens, de l'importance qu'ils connaissent Jésus-Christ. Seigneur, devant ce que nous avons vu ce matin, aide-nous à aimer davantage notre Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous à craindre Dieu puis de vivre dans la sainteté pour ne pas attirer sur nous son jugement. Puis aide-nous, Seigneur, de témoigner de Jésus à nos voisins, puis nos amis, puis nos familles. On demande ces choses au nom de Jésus. Amen.